Canus en 2.2, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires. Radio Canu, la plus rebelle des radios, on vous le disait à l'instant, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, et on est ensemble pour une heure d'actualité sociale, politique et autres, avec une émission un peu spéciale ce soir, Rémi, puisqu'on devrait avoir un invité à distance.
Oui, on va accueillir Christophe-Cécile Garnier, qui est rédacteur en chef adjoint au pôle enquête de Street Press, qui va nous parler d'une enquête participative qu'ils sont en train de mener sur l'extrême droite partout en France. Et on l'interrogera un peu plus particulièrement sur le contexte lyonnais.
Malheureusement, quelque chose fort utile par les temps sombres qu'on connaît actuellement et les résurgences de l'extrême droite et de la peste brune aux quatre coins de l'Hexagone et ailleurs encore. Voilà, donc dans quelques minutes, normalement, il devrait être à l'antenne avec nous pour nous présenter Street Press, comme tu dis, et cette fameuse enquête participative qu'ils viennent de lancer. On va revenir sur les méfaits de l'extrême droite à Lyon, puisqu'ils se sont encore illustrés. Mais avant ça, on va vous donner quand même deux rendez-vous. Nos traditionnelles annonces pour commencer l'émission. Vous rappelez qu'encore une fois, malheureusement, vu la situation humanitaire dramatique qu'il continue à y avoir à Gaza, ce week-end, il y aura de nouveau un rassemblement. On ne sait pas trop si ça sera une manifestation ou pas, ou si ça sera un simple rassemblement. En tout cas, le collectif 69 de soutien à la Palestine appelle à un rassemblement samedi à 14h, place Bellecour à Lyon, pour là encore demander une urgence pour la Palestine et la fin des combats et une solution humanitaire et pacifique. Ça, c'est samedi en début d'après-midi. Et puis, c'est tout à fait faisable de faire les deux. Samedi, en fin d'après-midi, à 17h30, l'Union Communiste Libertaire, l'UCL, notre organisation, vous invite à une discussion-débat avec Jean-Marie Izrine. Jean-Marie Izrine, c'est l'auteur du livre « Les libertaires dans l'affaire Dreyfus », un livre qui est déjà paru il y a quelques temps, mais qui nous paraissait ô combien pertinent à l'heure actuelle de remontée du racisme et de l'antisémitisme, de pouvoir remettre en débat. Ça sera donc un débat avec l'auteur de ce livre, Jean-Marc Ezrine, Les libertaires dans l'affaire Dreyfus, donc ce samedi 10 février à La Plume Noire. On rappelle que la librairie La Plume Noire, c'est la librairie de l'Union Communiste Libertaire et qu'elle se trouve 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse, à côté de la place Colbert. Et on vous invite toutes et tous à venir débattre de ce livre, libertaire dans l'affaire Dreyfus. On rappellera en quelques mots que cette affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a défrayé la chronique politique en France durant une dizaine d'années entre 1898 et 1899, que cette affaire Dreyfus, elle avait divisé la France en deux blocs, un bloc anti-Dreyfusard qui était cimenté par le nationalisme et le militarisme et l'antisémitisme, et puis un bloc Dreyfusard dans lequel on retrouvait les anti-républicains, les anticléricaux, pardon, les républicains, mais aussi les anarchistes, et que ce débat samedi après-midi à La Plume Noire sera l'occasion de se demander un peu plus comment les anarchistes ont-ils réagi à la montée de l'antisémitisme et à la menace du coup d'état militaire pendant l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce que on peut apprendre de ces luttes de cette époque-là qui étaient menées par nos camarades et de leur débat pour aujourd'hui, comme on le disait, dans une période qui est justement marquée par la montée du racisme, du nationalisme et par la résurgence de l'antisémitisme. Voilà comment on pourra faire ce lien entre hier ou aujourd'hui, s'inspirer des luttes libertaires antiracistes et contre l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus et aujourd'hui les malheureuses résurgences auxquelles on assiste. Et c'est pour ça qu'on vous invite donc ce samedi 10 février à 17h30 à la librairie La Plus Noire autour de ce débat autour de ce livre Les Libertaires dans l'affaire Dreyfus. Voilà, il y aura une participation à prix libre en soutien au lieu et pour financer le déplacement de l'auteur qui sera proposé, et puis par autodéfense sanitaire aussi le port du masque est recommandé. Voilà pour nos rendez-vous et puis on va directement rentrer dans le vif du sujet en attendant notre invité de Street Pest qui va venir nous parler de leur enquête participative sur l'extrême droite, et puis en lien avec cette résurgence du nationalisme et de l'antisémitisme, quelques infos sur nos amis les bêtes, sur l'extrême droite qui s'est encore illustrée ces derniers temps à Lyon, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière.
Oui, tu l'as dit, l'émission sera largement consacrée à l'extrême droite aujourd'hui. On va faire un petit retour sur les différentes attaques et agressions qui sont déroulées à Lyon ces derniers temps. L'histoire la plus récente, vous en avez sûrement entendu parler, sont deux nervis fascistes condamnés à de la prison ferme. C'est assez rare pour être noté. 6 mois et 2 ans ferme respectivement pour avoir agressé 3 personnes vendredi dans le centre de Lyon. L'un d'eux est bien connu puisque c'est l'ancien porte-parole du groupe d'extrême droite Les Remparts, ancien président de la Cocarde aussi à Lyon, et habitué de la salle de boxe La Gaugée, un repère bien connu de l'extrême droite dans le Vieux-Lyon. Résultat pour les deux, comparutions immédiates pour des chefs d'accusation de port d'armes et violences aggravées aggravées par 3 circonstances. La première, c'est l'usage d'une arme, la deuxième, c'est qu'elle a eu lieu en réunion, et la troisième, c'est à raison de l'appartenance à une ethnie, nation, race ou religion. Donc le crime raciste a bien été retenu. En plus de la prison, ils ont l'interdiction de paraître dans le département du Rhône pour 5 ans. Autre attaque récente, celle qui a visé la Maison des Passages qui accueillait une conférence sur la situation en Palestine en novembre dernier, on vous en avait parlé fin d'année dernière. Il y avait eu 7 personnes blessées, dont 3 qui ont fini à l'hôpital. Eh bien, on a appris hier que 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Sans surprise, ce sont des militants identitaires qui sont impliqués. Et une instruction judiciaire a été ouverte pour violence aggravée et dégradation en réunion. On peut aussi noter l'attaque récente des locaux de l'UNEF à l'Université Lyon 2 le 31 janvier. On y avait retrouvé notamment des stickers France nationaliste ornés de fleurs de lys et de croix celtiques. Symbole connu pour avoir été détourné, approprié par l'extrême droite. Mais si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas uniquement pour vous rappeler des faits ou pour nous réjouir que l'extrême droite soit enfin jugée et punie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une mouvance violente et haineuse. Ça, c'est toi qui vas t'en charger un peu plus tard, David. Moi, si je vous en parle, c'est pour mettre en lumière le travail que fait le collectif Fermons les locaux fascistes, un collectif dont l'UCL est membre. Ce collectif a publié début février la liste des récentes actions, agressions et attaques commises par l'extrême droite, et la liste est longue. Le collectif avait déjà publié un récapitulatif similaire en juin 2023. Celui-ci retrace donc les exactions fascistes sur les 7 derniers mois, et la liste vraiment est incroyablement longue puisqu'on en compte pas moins de 31, donc plus de 4 par mois, ce qui donne une effroyable moyenne de plus d'une par semaine depuis juin dernier. Parmi elles, on peut citer l'attaque d'une manifestation en hommage à Steve Maya Caniso et contre les violences policières, une attaque revendiquée sur le groupe Telegram des néo-nazis de West Casual. En juillet, une agression raciste dans le Vieux-Lyon. En septembre, une campagne de collage contre l'avortement. En novembre, un concert néo-nazi qui a eu lieu malgré une interdiction. Tout ça, encore, ne sont que les faits documentés pour lesquels le collectif a eu l'autorisation des victimes pour en parler publiquement. Il y en a eu probablement beaucoup d'autres. Mais Fermons les locaux fascistes ne fait pas que publier des récapitulatifs. Ses membres militent, comme son nom l'indique, pour la fermeture des locaux utilisés par tous les groupes fascistes lyonnais. Leur argumentaire, il est simple, tant qu'ils auront des lieux où se rassembler, les fascistes pourront s'organiser. Inutile de dissoudre des groupes s'ils trouvent un moyen de se rassembler pour préparer leurs attaques et se replier après leurs exactions. Et ça, on l'a vu d'ailleurs après l'attaque de la Maison des Passages. Après une bonne trentaine de minutes d'agressions, insultes et tirs de mortier, comme on dit, la police a finalement fini par montrer le bout de son nez, mais sans vraiment arrêter qui que ce soit. Tous ces jeunes gens ont pu rentrer tranquillement dans leur repère, et ce soir-là, étrange coïncidence, des identitaires ont jeté des bouteilles en verre sur une étudiante qui passait par là, à proximité de leurs locaux. La traboule, plus précisément, au prétexte, semble-t-il, qu'elle ne leur paraissait pas assez blanche. Génération Identitaire a beau avoir été dissous, ses membres peuvent toujours se rassembler et s'entraîner à la boxe. La stratégie de FLF, fermons le co-fasciste, c'est d'une part aller voir les commerçants et les habitants vivant à proximité de ces lieux pour les interpeller, leur faire prendre conscience que leurs quartiers sont gangrénés par des personnes haineuses, dangereuses et violentes. Et d'autre part, le collectif s'adresse aussi au pouvoir public, à la mairie notamment, une mairie soi-disant de gauche désormais, mais qui peine à faire fermer quoi que ce soit. L'une des raisons de ce statu quo, c'est l'aveuglement, voire la complicité de la préfecture, de l'État donc, qui, au-delà des effets d'annonce, ne fait rien de concret. Par exemple, en novembre, la préfète s'était félicitée d'un arrêté d'interdiction pour une manif d'extrême droite, manif qui a pourtant eu lieu en pleine presqu'île, sans même que la police ne les ralentisse. On l'a vu à de nombreuses reprises, hein, avec Macron, de toute façon, l'État ferme les yeux et le gouvernement laisse faire.
Voilà, la situation, elle est claire. Bien évidemment, on sait très bien que c'est pas en interdisant l'extrême droite qu'on supprimera ses idées et qu'on fera disparaître la peste brune, que le combat, il est bien plus profond, que c'est un combat, c'est un combat social, que c'est par un projet de société émancipateur et égalitaire qu'on pourra s'opposer à l'extrême droite. Néanmoins, fermer les locaux fascistes, c'est casser les bases arrières des violences fascistes, comme tu l'as si bien montré, Rémi, sur à Lyon et dans d'autres villes encore, mais à Lyon où on en est en effet encore à une liste d'exactions qui est bien trop longue, comme ça a déjà été dit depuis maintenant plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant, puisqu'on se rappelle que c'est depuis 2010 que les violences d'extrême droite ont franchi un certain nombre d'étapes à Lyon. Faut-il attendre qu'il y ait un mort pour que les pouvoirs publics arrêtent de rejeter la pierre et de mettre dos à dos soi-disant extrême gauche et mouvement antifasciste? Et on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui, par sa stratégie qui a toujours été la sienne, celle de semer la terreur dans la rue par la violence et par la menace, qui aujourd'hui est responsable de violences, d'exactions. Tu l'as dit, des jeunes qui ont été blessés à l'arme blanche encore dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. C'est dramatique. Faut-il attendre, faut-il qu'il y ait un mort la prochaine fois pour que les pouvoirs publics interviennent? C'est toute la question que pose légitimement fermons les locaux fascistes et fermer les bases arrière de ces organisations violentes. Et c'est quelque part aussi casser les pattes de ces descentes, de ces ratonnades, de ces virées à caractère violente, telle celle en effet qui a frappé, celle aussi que tu as si bien rappelé, le 11 novembre dernier, la Maison des Passages, à l'occasion de cette conférence du collectif 69 pour la Palestine, et dont en effet 9 personnes, dont un suspect qui était déjà détenu parce qu'arrêté à ce moment-là de la mouvance identitaire, ont été placés en garde à vue. Voilà ce qu'on voulait dire sur l'actualité malheureuse et dont on se passerait bien et tragique de la présence de l'extrême droite, malheureusement, qui a décidé depuis déjà quelque temps de faire de Lyon un laboratoire de ses idées et de ses exactions. On espère pouvoir en parler plus largement avec notre invité dans quelques minutes. On va peut-être faire une première pause musicale. En attendant, on va justement retrouver notre camarade Serge Gerroyo avec un morceau justement qui nous rappelle ces heures sombres et qui nous rappelle l'importance de la vigilance contre l'extrême droite. Ce morceau de Serge Gerroyo qu'on connaît bien, qu'on a déjà entendu et qui, rappelez-vous, en 1996 avait accompagné les mobilisations contre l'incendie de notre librairie la plus noire par l'extrême droite. C'est le fameux morceau « Ami dessous la cendre » de Serge Gerroyo.
Sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. Chassette ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder, des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les s'accumule, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire.
Christophe, tu nous entends?
Ouais, je vous entends super loin là, mais...
Ah bah nous on t'entend, t'es à l'antenne.
Ok.
On va essayer de faire l'interview, ça serait dommage de s'en passer, même si les conditions sont pas idéales. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tout d'abord tu peux nous tout simplement nous présenter Street Press?
Ouais, carrément. Alors je vous entends super loin, mais je vais essayer. Donc Street Press, c'est un média qui existe maintenant depuis 15 ans, en 2024. On s'est créé en 2009, et donc c'est un média voilà qui est dédié aux 18-35 ans, qui est spécialisé sur les informations et les enquêtes, et notamment les enquêtes sur les sujets dont on parlait peu avant dans les médias, c'est-à-dire certains groupes d'extrême droite et les violences policières aussi notamment.
Et du coup, vous avez lancé en fin d'année dernière une grande enquête sur l'extrême droite. C'est une enquête participative. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi elle consiste, cette enquête participative?
Ouais. Enfin, en fait, on a voulu lancer la plus grosse enquête participative sur l'extrême droite. C'était donc le but pour nous, c'est comme on est un petit média, on est une dizaine de personnes, c'est de dire à nos lecteurs et à nos soutiens que on ne pouvait pas être partout, mais qu'ils pouvaient nous donner les informations dont on peut avoir besoin. Donnez-nous en fait les informations dont on peut avoir besoin. Soyez nos yeux et nos oreilles en fait partout en France. Et donc le but c'était à la fois de faire une cartographie notamment sur tous les groupes d'extrême droite qu'il peut y avoir en France et en Navarre, donc on estime à peu près 150.
Et est-ce que ça a marché pour l'instant? Est-ce que vous avez est-ce que l'enquête a porté ses fruits? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de notable pour l'instant que vous auriez pas pu obtenir autrement?
Ouais, en fait, l'enquête a porté ses fruits parce qu'en termes, on espérait 100 000 euros de la part de nos soutiens pour pouvoir en fait déjà financer la plateforme et puis financer le travail des journalistes qui permettent d'enquêter en fait sur l'extrême droite. Sur les groupes d'extrême droite. Le but de faire cette cartographie, ça permettait de payer les gens. Et puis après, en fait, les gens nous ont énormément soutenus. On a reçu aussi beaucoup de menaces, évidemment, mais les gens nous ont énormément soutenus. On a récolté 180 000 euros quand on en attendait 100 000.
Est-ce que vous avez réussi à avoir des informations de la part des gens sur certains groupes que vous ne connaissiez pas? Est-ce que ça vous a permis?
Oui, complètement. C'était vraiment le but. Après, il y a beaucoup d'informations qui nous ont été envoyées, donc on est toujours en train de regarder ce qui peut être fait. Après, il y a eu aussi beaucoup de membres d'extrême droite qui ont tenté un peu de faire du trolling, d'envoyer des informations erronées, mais ça, on s'y attendait en fait. Et c'était pas un problème en fait de trier de bon grain de livret. Mais oui, il y a eu énormément de personnes qui nous envoyaient, même pas par rapport à la cartographie, mais en fait dès qu'ils ont vu qu'on avait lancé ce projet de cartographie, même avant qu'on sorte en fait la plateforme, parce qu'il y a une plateforme qu'on a développée, les gens nous ont vraiment envoyé plein d'infos, donc c'était vraiment super efficace.
Et du coup, tu es sur Radio Canu. Radio Canu, c'est une radio emblématique à Lyon, une radio qui milite, qui essaie de faire porter une voix antifasciste dans une ville qui est rongée par le fascisme. On dit d'ailleurs souvent que Lyon, c'est la capitale du fascisme. Est-ce qu'il existe une particularité lyonnaise sur ce sujet?
La raison, c'est que il y en a plusieurs en fait. Donc il y a notamment déjà dès 2007 le bastion social à Lyon qui est né là-bas. Et donc ça a eu tendance à légitimer un peu cette prise de position à Lyon. C'est lié à plein de facteurs, si vous voulez. Déjà parce que Lyon, historiquement, c'est quand même une ville où l'extrême droite peut être présente. Hein. Dès les années 90, il y a une librairie d'extrême droite qui a pignon sur rue. Il y a après une extrême droite qui est implantée de façon universitaire assez forte aussi, avec la présence de Lyon 3, par exemple. Les groupes se montaient, trouvaient leur source là-bas. Enfin, il y a par exemple les groupes de Benedetti, enfin Yvan Benedetti, un des nationalistes, qui était quand même assez présent sur la ville. Il y a une porosité entre les milieux catholiques traditionnalistes et l'extrême droite radicale. Ceux qui ont pu lire le dernier épisode de Faf, notre newsletter sur l'extrême droite, ont pu en avoir un exemple avec quelqu'un comme Elliot Bertin, qui est le chef d'un groupe néo-nazi à Lyon, qui s'est fiancé avec une représentante de la Marche pour la Vie, donc vraiment les cathos tradis. Et voilà, et en fait, le dernier élément aussi, c'est que à Lyon, c'est une très grosse ville, donc comme Paris et Marseille, et en fait, à Paris et Marseille, il y a une énorme, vraiment énorme opposition de la population et des militants. Et en termes de rapport de force, le nombre est beaucoup plus favorable à Paris et Marseille qu'à Lyon, je trouve. Après, les militants de Lyon font un travail qui est exceptionnel pour lutter contre l'extrême droite, mais le rapport de force est beaucoup plus compliqué parce que il y a plus de forces d'extrême droite. Il faut vraiment se rendre compte qu'à Paris, par exemple, les membres d'extrême droite, les groupes d'extrême droite n'arrivent pas à avoir des locaux. C'est vraiment quelque chose qui est assez prépondérant à Paris, c'est qu'à chaque fois, ils se faisaient taper, et donc les locaux, en fait, ne leur permettaient pas... ils n'avaient pas de présence, en fait, locale à partir du moment où ils n'arrivaient pas à avoir un local. C'est ce qui a amené, par exemple, une fois le GUD qui s'est autodissous en 2017 pour donner de bastion sociale à Lyon notamment, bah, à Paris, ça a donné plutôt les OUAV, parce qu'en fait, eux, les OUAV, c'était vraiment une bande et c'était pas à vocation associative, parce qu'ils savaient très bien qu'à Paris, ils ne pourraient pas avoir de locaux.
Donc
voilà pour répondre à la question.
On en revient donc, comme on disait tout à l'heure, à cette problématique. S'ils sont implantés physiquement, géographiquement, ça leur donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids. Et c'est pour ça qu'il faut combattre les locaux. Pour terminer, Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment soutenir Street Press et comment participer à cette enquête et peut-être comment soutenir financièrement ce média?
Déjà, je tenais à vous remercier, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais vous remercier de m'avoir invité à cette émission. C'est aussi grâce à vous qu'on permet de faire connaître Street Press à plus de public. Et donc, en fait, le but, pour nous soutenir, nous, vraiment, ce qui est utile, c'est de nous partager des infos. Si jamais vous avez n'importe quoi, une info, un mouvement, si vous êtes, par exemple, vous travaillez dans une banque et vous voyez un mouvement bancaire chelou, vous pouvez nous en parler, ça pourra peut-être amener à une enquête. Nous, on essaye beaucoup de relier l'argent et les FAF. Ça a été, par exemple, la dernière enquête de FAF. Mais il y a aussi le fait de nous soutenir. Nous, on a un média qui dépend, en fait, de ses lecteurs et de ses soutiens. On est à prix libre, en fait. C'est-à-dire que nos articles sont vraiment accessibles, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez faire un petit don, et nous, ça nous aide énormément.
Super, merci.
Dernière question, Christophe, qu'est-ce qui anime sur le fond et qu'est-ce qui motive les gens qui font vivre Street Press?
C'était la question de trop.
C'était la question de trop. On a malheureusement perdu Christophe, qui a bien voulu accepter de nous répondre, alors que vous l'avez compris, il était pas dans des conditions très favorables pour être posé, pour être à l'écoute. En tout cas, on vous le rappelle, Street Press, média libre sur le net, qui lutte contre la résurgence de la peste brune. C'est très simple, il suffit de se connecter, de taper Street Press dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber sur ce média en ligne avec de très très nombreuses vidéos, témoignages et autres extrêmement fort documentés aujourd'hui sur l'extrême droite.
Et il l'a rapidement évoqué, mais je vous conseille aussi la newsletter donc qui s'appelle FAF, newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur leur site streetpress.com.
Allez, on fait une autre pause musicale sur ce 102.0 de Radio Canu, histoire de souffler un petit peu après cette
expérience auditive.
Expérience auditive qu'on tentera d'améliorer la prochaine fois, de faire dans des conditions un peu plus sereines. On va retrouver les Inner Territorial qui, à propos de la montée du fascisme, nous chantent le White Nightmare, le cauchemar blanc.
Just to unfold, and this is about the fight of millions under attack from evil's minions. This song is about the fascist threat and a history full of regrets. And this is a tale of countless death because of the lies on which we're fed. Great white.
being nurtured. Factory autism, blind faith in the state. Relator xenophobia and race hate. The innocents died when the war flags flew. A scared human being's no different from you. In a God of mercy's name, they all had to be cleansed. The commies, the subverts, the gypsies and you.
Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On s'excuse encore pour les petits problèmes techniques de lien avec notre contact de Street Press qui était pas dans des... dont la connexion était difficile à établir, mais peut-être partie remise. On refera peut-être à l'occasion une autre interview avec lui pour revenir sur l'importance de ce site d'information contre l'extrême droite, contre la résurgence de l'extrême droite et ses exactions, et puis sur l'enquête participative qu'ils ont lancée. Il nous reste une grosse dizaine de minutes sur cette antenne de Radio Canu pour aborder quelques pages sociales, quelques mobilisations. On voulait commencer par celle qui touche le monde de l'éducation, puisqu'il y a eu une journée de grève importante jeudi dernier, jeudi 1er février, à la fois dans le premier degré, dans les écoles, comme dans le second degré, dans les collèges et le lycée. Une mobilisation importante, hein, où plus d'un enseignant sur deux était en grève et beaucoup dans la rue. C'était des manifestations qui étaient opposées aux réformes qui avaient été lancées par Gabriel Attal avant son départ comme ministre de l'Éducation nationale. Des projets, des réformes tout azimut à la fois qui portent atteinte à la nature du collège unique avec le projet de mise en place de groupes de niveau dès la rentrée prochaine pour les classes de 6e et 5e au collège et puis dans les années qui suivent en 4e, 3e, mais aussi des politiques d'austérité qui visent à démolir le service public d'éducation et en dégrader à la fois la qualité pour d'enseignement pour les élèves et les conditions de travail pour les personnels. Et puis c'était aussi dénoncer une école qui sent le passé, qui sent la naphtaline, qui sent l'ordre moral et l'autoritarisme à travers des projets de mise au pas de la jeunesse tels que celui de l'instauration de l'uniforme ou bien sûr la généralisation du SNU qui commence à titre expérimental dès cette année pour les classes de seconde. Tout lycéen de France en classe de seconde cette année va se retrouver avec 15 jours entre le 17 et le 30 juin avec le fait de devoir faire soit le SNU, soit à défaut, devoir se trouver un stage professionnel. Et puis l'idée est qu'en 2026, ça soit plus le choix entre le SNU et le stage professionnel, mais que ça soit le SNU pour tout le monde avec ses cours de morale, ses levées de drapeau, ses chants de la Marseillaise et ses encadrements militaristes et de mise au pas de la jeunesse. Voilà, c'est tout comme c'était si bien chanté dans les rues par les cortèges lycéens d'ailleurs qui ont rejoint les manifestations la semaine dernière. Le SNU c'est dégueulasse, l'uniforme c'est dégueulasse aussi. Ils avaient bien raison et bien évidemment notre âme d'antimilitariste ne peut que les rejoindre. En tout cas, ces mobilisations dans l'éducation nationale, elles font du bien. Ça fait longtemps que qu'on sait que le service public d'éducation est mal mené et ses agents encore plus, et que peut-être que il est temps de changer la donne, de renverser le rapport de force pour les personnels de l'éducation nationale qui sont mobilisés. D'autant plus que la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra, AOC, telle que surnommée dans les différentes manifestations, a exprimé un mépris profond contre les personnels depuis son arrivée. En période politique normale et les conventions politiques habituelles de la République auraient fait qu'elle aurait présenté sa démission dans les jours qui avaient suivi sa nomination après avoir ouvertement menti sur les choix qui l'avaient poussé à inscrire ses enfants dans des établissements privés. Non seulement privé, mais en plus réactionnaire, intégriste, homophobe et sexiste, et que malgré l'enquête sur ses justifications, qui étaient donc plus qu'erronées, mais mensongères, elle a reconnu que la vérité lui avait donné tort, mais peu importe, elle a exprimé un véritable mépris de classe, un mépris de classe qui a fait qu'elle reste là, qu'elle continue à rester aux affaires, et que rien ne change pour autant, même si aux dernières nouvelles et les dernières dernières rumeurs médiatiques laisseraient sous-entendre que ça branlerait dans le manche pour elle-même et que peut-être à force de raconter n'importe quoi et d'étaler sa méconnaissance de la réalité de l'éducation nationale ainsi que son mépris de classe, peut-être qu'elle va finir par devoir présenter sa démission ou être tout simplement débarquée par Attal ou par directement par Macron. En attendant, c'est ce mépris de classe de Amélie Oudéa-Castéra a mis de l'huile sur le feu, un feu qui était déjà très vif du côté des personnels de l'éducation nationale et explique en partie cette réussite de cette grève de jeudi 1er février. Et fort de la réussite de cette mobilisation, les personnels de l'éducation nationale, pour beaucoup, en tout cas pour ceux du second degré et principalement dans les collèges, ont décidé de poursuivre, de renouveler le mouvement ce mardi 6 février. C'était le cas à Lyon notamment. La semaine dernière, il y avait déjà eu plus de 5000 personnes dans la rue, ce qui était une belle réussite pour un cortège uniquement de l'éducation nationale. Ils étaient encore un millier hier dans la rue. Cette fois-ci, c'est loin d'être ridicule quand on sait que c'était uniquement le second degré, avec près de 40% d'enseignants au niveau national qui étaient en grève, essentiellement des personnels du collège, qui ont décidé donc de poursuivre cette mobilisation dans le cadre d'une semaine d'action qui était appelée par une intersyndicale nationale qui appelait à faire des actions sous différentes formes du 5 au 9 février avec donc un temps fort ce mardi 6 février. Et puis rien n'est fini. On sait que à partir de la fin de la semaine, on va rentrer dans une période de vacances scolaires, avec notamment la région parisienne qui part en vacances et qui va être difficile de mobiliser alors que toutes les académies ne seront pas là. Mais l'intersyndicale, comme de nombreuses assemblées générales de grévistes, et elle vise au printemps à une mobilisation dans la durée. C'est-à-dire que ce n'était pas une simple manifestation le 1er février dernier pour dépoussiérer les drapeaux et pour montrer qu'on est là, mais bien pour exprimer un profond ras-le-bol, une profonde insatisfaction et pour essayer de construire et d'enclencher un mouvement, au même titre que la journée d'hier, qui contribuait à la construction de ce mouvement. Et il est fort à parier que dès le début du mois de mars, il y ait des mobilisations qui reprennent dans l'éducation nationale partout en France. Ça pourrait même commencer avant, puisque dès février, il y a un mot d'ordre de la part des enseignants en grève de Seine-Saint-Denis qui est pas de rentrer en Seine-Saint-Denis. Leur idée serait d'être en grève dès le lundi de la rentrée, le 26 février, pour eux en Seine-Saint-Denis. C'est ce qui a été voté par plusieurs séries d'AG en Seine-Saint-Denis et qui est soutenu par les syndicats CGT, SUD, SNES, FSU et la CNT qui soutiennent cette mobilisation. Donc à voir une mobilisation sans prendre forme dans l'éducation nationale pour dénoncer la casse du service public d'éducation, pour dénoncer la fin du collège unique, puisque bien évidemment l'instauration de ces groupes de niveau, ça vise à terme à faire des classes de niveau et des orientations précoces de la part des élèves, et ça sera la fin du collège unique et puis de cette école qui est bien loin de l'école émancipatrice dont on peut rêver, une école qui sent la naphtaline et qui sent l'ordre moral, on vous le dit, à grands coups d'uniforme et de SNU, de ce vieux monde qui sent la poussière et passéiste, on n'en veut pas. Et c'est aussi ce que semble dire les personnels de l'éducation nationale qui sont bien partis, et on peut que leur souhaiter bon courage et être de tout cœur avec eux, et on manquera pas de relayer leur mobilisation qui, après la réussite de cette mobilisation de jeudi dernier et d'hier, semblerait prêt à reprendre la mobilisation des fin février, début mars.
Et puis de mon côté, moi je voulais vous parler de deux initiatives, une grève et une victoire. On va commencer avec le jeu vidéo, c'est pas souvent qu'on en parle. Le 14 février, ce sont les camarades du STJV, le syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo, qui lancent un appel à la grève pour des salaires dignes chez Ubisoft. Ubisoft, c'est le géant français du jeu vidéo, c'est une entreprise florissante qui visiblement a du mal à partager les bénéfices. Cette dernière semaine, c'était les négociations annuelles obligatoires qui avaient lieu. Elles portaient sur les salaires dans plusieurs entités de la boîte française. Et malgré des efforts concertés des organisations syndicales pour trouver un compromis acceptable, les négociations se sont heurtées à un mur. Prétextant une politique de réduction des coûts purement arbitraire, la direction a proposé un budget d'augmentation inférieur à l'inflation pour la seconde année consécutive en plus. plus. L'entreprise, elle se vante pourtant d'un second trimestre bien au-delà de ses attentes, tout en voulant rendre hommage à l'engagement exceptionnel de ses équipes. Donc, une belle ironie. C'est un système de récompense qui semble bien mal équilibré dans cette entreprise. Le syndicat, en commun avec d'autres organisations syndicales de lutte présentes chez Ubisoft, invite à une grève donc toute la journée du mercredi 14 février pour toutes les entités françaises appartenant au groupe Ubisoft. Et puis bon, le jeu vidéo, c'est un domaine assez récent et donc qui n'est pas forcément le plus combatif. Donc si vous bossez dans le jeu vidéo et que vous avez des questions sur les modalités de participation à une grève, le STJV propose une fiche pratique sur le sujet qui est disponible sur son site. Et puis enfin, je voulais finir avec une bonne nouvelle qui a lieu à Angers sur une plateforme logistique de l'entreprise Koenigl. Désolé pour la prononciation. C'est une entreprise qui travaille pour les magasins Action et qui est située à côté d'Angers, qui emploie 400 salariés, majoritairement des intérimaires et des travailleuses et travailleurs immigrés. Les conditions de travail y sont particulièrement difficiles, les salaires sont bas, la précarité est partout. Et finalement, c'est une nouvelle augmentation des cadences qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La semaine dernière, des salariés ont commencé à préparer un débrayage de 2 heures par équipe. Dès le début et jusqu'à la fin, c'est entre 80 et 90% des ouvriers qui auront participé au mouvement, dont la quasi-totalité des intérimaires. Apparemment, c'était une ambiance festive et déterminée, avec des revendications. La première, l'annulation de l'augmentation des cadences. La deuxième, l'embauche en CDI de tous les intérimaires voulant être embauchés. Et la troisième, l'augmentation de 250 euros par mois des salaires. Les grévistes ont aussi voté une reconduction de leur débrayage dès le lendemain, avant de voter une grève totale pour les jeudis et vendredis suivants, toujours en restant à l'intérieur avec l'occupation de la plateforme. Et la direction leur a accordé quelques promesses en même temps qu'elle les menaçait de représailles, mais finalement les grévistes ont gagné. Il y a eu un accord de fin de grève qui a été signé vendredi dernier, avec du coup l'annulation de l'augmentation des cadences, l'embauche de 80 intérimaires qui voulaient obtenir un CDI, et une augmentation de 130 euros par mois de la prime de productivité, donc un petit peu en dessous de leur demande, mais finalement ces trois éléments ont réussi à satisfaire leurs attentes. Voilà donc une belle nouvelle pour terminer cette émission qui était, comme trop souvent, un peu trop axée sur l'extrême droite, un peu trop sombre, et en plus avec des soucis techniques. Donc voilà, autant finir sur une bonne nouvelle.
C'est avec cette bonne nouvelle, comme tu le dis Rémi, qu'on termine cette émission Idée Noire. On vous rappelle ce samedi, rendez-vous à la librairie La Plume Noire, 17h30, l'Union Communiste Libertaire vous invite à un débat avec l'auteur Les Libertaires dans l'affaire Dreyfus. Les Libertaires dans l'affaire Dreyfus, à partir de 17h30, avec la rencontre de l'auteur, donc à la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est Jean-Marc Izrine, l'auteur de ce livre, Les Libertaires dans l'affaire Dreyfus. Entrée à prix libre, bien évidemment. On vous attend toutes et toutes si vous voulez venir participer à cette rencontre. Débat avec l'auteur, Les Libertaires dans l'affaire Dreyfus.